Où l'actualité hésite, indéterminée à dire qui est l'homme du jour, justement, ici, depuis Paris, Obama ou Delanoé, prétendants et potentiels présidents. Oh, la route est longue pour l'un et l'autre, 6 mois ou 4 ans. Le probable candidat démocrate, en tout cas, est à la une de Libé et le possible candidat libéral à la une du Figaro, car il ne faut plus dire socialiste pour le maire de Paris, ni même social-démocrate, si l'on en croit son livre apparaître ce jeudi, mais libéral et socialiste, là est la nouveauté. Question de vocabulaire pour dire ce balancement des idées et des convictions, autant des idéologies révolues. Il y a des jours où la pipolisation hésite aussi. Clint Eastwood ou Maradona, l'un et l'autre sont sur la croisette et dans les journaux, forcément. Le premier avec Angelina Jolie, le second avec son ballon, forcément. Au choix, chacun ses passions, ses stars et son cinéma, et j'avoue ne pas hésiter, mais il y a des jours où, dans la famille Sarkozy, je demande qui, Carla ou Nicolas. On connut monsieur tous les jours à la une, omniprésent et président, mais depuis son arrivée, tout a changé entre elle et lui, l'actualité balance. Quand il chute, elle chante pour oublier ses méfaits, mes aventures et ratés. Il y a ses robes, son charme, sa classe et son disque. Car voilà l'info, discrète mais omniprésente dans tous les canards, entre les pages politiques et les pages culture. Le troisième disque de Carla est annoncé pour fin juillet. Et cet événement mondial devrait s'appeler « Comme si de rien n'était vrai ». De l'art de dire le contraire de ce qui est, tout un programme ou un simple album. J'hésite.
Culture vive, Pascal Paradis.
Les deux pigeons. Deux pigeons s'aimaient d'amour tendre. L'un d'eux, s'ennuyant au logis, fut assez fou pour entreprendre un voyage en lointain pays. L'autre lui dit « Qu'allez-vous faire? Voulez-vous quitter votre frère? L'absence est le plus grand traité. »
De François Villon à Henri Michaud, un parcours subjectif dans la littérature française en un volume, 6 CD et un DVD, c'est le pari un peu fou de Michel Butor, écrivain et professeur. Bonjour Michel Butor.
Bonjour.
Vous nous conviez à un cours magistral ?
Non, pas du tout. Ce sont des conversations. J'ai fait aussi beaucoup de cours magistraux dans ma vie, et qui ont été enregistrés, dont j'ai publié quelques-uns, sous le titre Improvisation. Mais ça, c'est autre chose. Ça, ce sont des conversations avec un de mes anciens étudiants, qui est professeur maintenant, et qui m'interroge sur la littérature française.
Parce qu'en effet, si vous êtes écrivain, et pas des moindres, hein, un de vos amis, je crois, vous surnomme le monument marginal.
Ah ben si, c'est très gentil.
Vous avez été professeur longtemps, oui. et partout. Vous
avez partout, c'est trop dire, mais dans de nombreux endroits.
Voilà, en Égypte, aux États-Unis, oui, en Suisse, en France, et je dois en oublier.
Oui, mais ça fait rien, ça.
Mais ça a été important dans votre vie ?
L'enseignement est absolument essentiel. J'ai gagné ma vie comme professeur. C'est ce qui m'a donné la liberté d'écrire ce qui me passait par la tête et de ne pas chercher la vente. Vous voyez, c'est terrible, les pauvres écrivains qui sont obligés de surveiller leur chiffre de vente. Bon, moi, j'avais la paix à peu près dans ce domaine. J'étais un professeur un peu particulier parce que très nomade, enfin pas du tout dans la ligne de l'enseignement français normal. Et donc je me suis promené beaucoup à l'étranger et j'ai terminé ma carrière pendant des années à l'université de Genève.
Nomade, c'est un mot que vous aimez bien, hein, que vous revendiquez pour vous et pour la littérature d'ailleurs.
Ah oui, bien sûr. J'aime bien aller voir comment ça se passe ailleurs. J'aime beaucoup franchir les frontières. Je suis pas pour abolir les frontières, parce que si on les abolissait, on pourrait plus les traverser. Mais j'aime bien traverser et voir ce qui se passe de l'autre côté.
Mais vous avez dit quand même une fois, je crois, écrire c'est détruire les frontières.
Écrire c'est passer les frontières, c'est-à-dire arriver à de nouveaux arrangements de la réalité.
Alors cette question-là géographique, c'est aussi une question littéraire. C'est une des questions que vous posez dans cette petite histoire de la littérature française, avec notamment cette question, faut-il découper l'histoire littéraire siècle par siècle, et on voit tout de suite la gare des Michards avec le 15e, le 16e.
Oui, ça c'est le programme. c'est le programme de l'enseignement. Évidemment, c'est commode de découper par siècle. Seulement, ça avantage les gens qui sont nés au début d'un siècle et qui sont morts avant la fin d'un siècle. Mais les gens qui sont à cheval sur deux siècles sont en général un peu exclus dans ce découpage. Donc, il faut regarder ce qui se passe aux charnières entre les siècles. Oui, je prends un exemple. Dans cette petite anthologie, il y a un texte de Fontenelle, Entretien sur la pluralité des mondes, et un texte tout à fait d'actualité avec les voyages dans l'espace aujourd'hui, la question de savoir s'il y a des extraterrestres, on cherche des bactéries sur Mars, voilà. On considère d'habitude que Fontenelle est un écrivain caractéristique du XVIIIe siècle, du début du XVIIIe siècle. Or, il se trouve que ce livre a paru entre la représentation de Phèdre de Racine et la représentation d'Esther. Ce qui montre que le découpage que l'on fait d'habitude ne marche pas. Alors, c'est toujours très intéressant d'appliquer des grilles sur la réalité, parce que c'est une façon de la questionner, ça l'oblige à répondre. Mais il ne faut pas toujours mettre les mêmes grilles. Donc, découper en 17e, 18e, 19e, ça va, mais il faut bien comprendre que ce n'est qu'un découpage conventionnel. Alors, ce découpage est terriblement institutionnalisé à cause des programmes scolaires. Et je ne propose pas un bouleversement des programmes scolaires. Il y a déjà
Vous n'êtes pas être ministre de l'Éducation nationale. Oui,
il y a déjà suffisamment de problèmes à résoudre dans l'enseignement. Bon, si on me demande mon avis, peut-être que j'essaierai de faire des propositions, mais pour l'instant, on ne me le demande pas. Donc, ce n'est pas ça que je cherche. Mais j'essaie de faire sentir aux gens que la façon dont on voit la réalité dépend des catégories qu'on applique dessus.
Alors voilà des éléments de réflexion que vous nous livrez dans cette petite histoire de la littérature française. Petite, pourquoi d'ailleurs ? C'est par modestie ?
Oh, mais parce que c'est un parcours très rapide. Il y a des tas de choses, des tas de gens que j'admire énormément et dont je ne parle pas.
Il y a quand même 6 heures d'écoute, hein?
Ah ben oui, mais c'est rien, 6 heures d'écoute, vous comprenez? Quand on fait un cours dans une université, ça fait 30 heures d'écoute sur un sujet. Alors là, c'est une espèce de course éperdue à travers les champs de la littérature. C'est passionnant aussi, parce que selon la vitesse à laquelle on va, on voit des choses différentes. Hein. Si on est à pied, en bicyclette ou en TGV, on ne voit pas la réalité de la même façon. Eh bien, de même, là, en parcourant le champ de la littérature un peu vite, ça oblige à mettre en évidence des choses différentes.
Michel Buteur, qu'est-ce qui caractérise la littérature française ? Je sais qu'en posant cette question-là, elle est énorme et impossible.
Oui, mais la littérature française, qu'est-ce qui la caractérise par rapport à quoi ? Par rapport à d'autres littératures, j'imagine, par rapport à la littérature anglaise ou à la littérature allemande. Bon, eh bien, évidemment, c'est extrêmement difficile de donner une réponse simple à une question pareille. La littérature française a un avantage, c'est qu'elle a une remarquable continuité. Donc, dans les différents siècles, et disons demi-siècles aussi, il y a toujours des choses intéressantes dans certains domaines. Alors, en ce qui concerne les styles, les sujets, il y a eu des moments où la France a été très inventive, et elle a eu beaucoup d'influence sur les littératures étrangères. La littérature française a aussi été capable d'absorber des influences de littérature étrangère.
Et alors, on en est où aujourd'hui, Michel Buteur ? Parce que, par exemple, que pensez-vous de ce manifeste des écrivains de la francophonie pour une littérature monde ? C'est-à-dire une littérature en français, mais au pluriel, quoi, nourrie des imaginaires et des phrases spécifiques des littératures qui s'écrivent en Afrique, en Haïti ou au Québec.
Ah, mais je suis tout à fait pour, naturellement. J'aime beaucoup tout ce qui se fait dans la francophonie, et j'aime beaucoup la variété de styles et de langues qui peut se manifester. Ça, c'est une des caractéristiques de la France, qui vient de la politique française. La France est un pays extraordinairement unificateur, hein, surtout à partir du XVIIe siècle, à partir de Richelieu. Hein, il a très bien compris que la langue française était un instrument d'unification extrêmement important.
Cela dit, ces écrivains-là disent plutôt que le centre n'est plus que en France, mais il est aussi à la périphérie et dans les autres pays de la francophonie.
Ah mais bien sûr, il y a une époque qui est le centralisme de Richelieu, Louis XIV, et puis ensuite la Révolution française, la Convention, etc., où il y a Paris d'un côté, et puis tout le reste, et c'est vrai que les Parisiens ont beaucoup de mal à comprendre qu'il existe quelque chose d'autre que Paris. Et ils sont de plus en plus obligés de l'admettre. Mais ils ont des difficultés, ça c'est certain. Alors c'est très très bien d'ouvrir un peu les portes et les fenêtres et puis d'écouter les voix qui viennent d'ailleurs.
Alors ce qui est quand même étonnant dans ce projet de petite histoire de la littérature française, Michel Buteur, c'est que vous évoquez assez peu les auteurs du XXe siècle. Dans la version papier, dans l'anthologie, il y a Apollinaire, Sandrars, Breton, Michaud, pas plus.
Oui, mais ça, je n'avais pas la place.
Oh,
mais non, il y a beaucoup d'autres auteurs que j'aurais voulu faire entrer à l'intérieur de ce petit... Je ne peux même pas parler de florilège, je préférerais parler de cahier d'échantillons. Alors c'était très limité comme place. J'aurais voulu faire entrer beaucoup plus de gens, naturellement, mais ça, il y a bien un moment où il faut s'arrêter. Et puis d'autre part, j'aurais voulu donner des extraits plus longs, pour que, quand on lit surtout un texte de prose, il y a une espèce d'entraînement qui se fait. Si c'est suffisamment long, eh bien, on a très envie de continuer. Hein? On a très envie de se précipiter dans une librairie pour acheter ce livre-là.
Et voyager avec le livre
c'est
et l'auteur.
Ça. Si c'est trop court, on n'a pas encore eu le temps de vraiment s'y mettre. Donc j'aurais voulu des extraits plus longs. Alors, pour revenir au XXe siècle, eh bien, évidemment, il n'était pas question pour moi de parler de tous les auteurs intéressants du XXe siècle et surtout de donner des échantillons de tous les auteurs intéressants du XXe siècle. Alors, ce qu'il y a, c'est que je me suis efforcé de rendre ce livre complémentaire. Dans les conversations, il y a des moments où je lis des textes. Je lis, par exemple, dans les conversations, un texte de Proust, un texte de Claudel, un texte d'Antonin Artaud, etc.
De Beckett.
De Beckett, oui. Alors, ceux que j'ai lus à l'intérieur des conversations, je ne les ai pas repris. J'ai préféré, disons, donner des échantillons d'autres écrivains, et surtout d'écrivains dont j'avais l'impression de n'avoir pas suffisamment parlé.
Parfois à ma fenêtre, dans l'hôtel de Balbec, le matin, quand Françoise défaisait les couvertures qui cachaient la lumière, le soir, quand j'attendais le moment de partir avec Saint-Loup, il m'était arrivé, grâce à un effet de soleil, de prendre une partie plus sombre de la mer pour une côte éloignée, ou de regarder avec joie une zone bleue et fluide, sans savoir si elle appartenait à la mer ou au ciel. Bien vite, mon intelligence rétablissait entre les éléments la séparation que mon impression avait abolie. C'est ainsi qu'il m'arrivait à Paris, dans ma chambre, d'entendre une dispute, presque une émeute, jusqu'à ce que j'eusse rapporté à sa cause.
Vous avez mis le pied gauche sur la rainure de cuivre et de votre épaule droite, vous essayez en vain de pousser un peu plus le panneau coulissant.
Oui.
Vous vous en souvenez?
Oui.
C'est la première phrase, Michel Buteur, de votre roman La Modification, qui est donc paru en 1957, qui vous a valu le prix Renaudot, et qui a été lu, qui est perçu d'ailleurs encore aujourd'hui comme un roman inaugural du nouveau roman. Est-ce que vous le revendiquez comme tel?
D'abord, je ne pense pas que ce soit le roman inaugural du nouveau roman, parce qu'il a été question de nouveaux romans avant ce livre-là. C'est peut-être celui qui est le plus connu. Hein. C'est celui qui a fait, et qui continue de faire, la meilleure carrière dans l'enseignement. Hein. Et ceci pour des raisons très claires. Premièrement, c'est un livre intéressant à cause de la grammaire. Hein. C'est plein d'exemples pour les professeurs de grammaire. Et comme on se met à insister sur la grammaire maintenant, la modification, ça va être très utile. Et puis d'autre part, à cause du thème, celui des relations entre Paris et Rome. C'est-à-dire le problème de l'Empire romain, de la tradition tradition chrétienne, le paganisme, etc. Et tout ça est évidemment non seulement d'actualité, mais tout ça fait partie du substrat de l'enseignement français.
Mais il y a aussi cette invention incroyable, c'est que le personnage n'existe pas en tant que tel, mais c'est vous. Vous, au sens que vous vous adressez toujours au lecteur.
Je m'adresse au lecteur, oui. Et ceci pour le prendre à partie. Oui,
j'ai... Parce qu'il n'y a pas de « je », il n'y a pas de « il », c'est vous toujours.
Ah non, il y a aussi « il » et « je ». Et justement, si j'ai pris ce pronom « vous », c'est parce que je voulais qu'à un certain moment apparaisse le « je » à l'intérieur du « vous ». Mais c'est un personnage masculin en tous les cas. Et on m'a très souvent fait la remarque, c'est que lorsque c'est une femme qui lit le livre, il y a un moment où elle dit « mais non ».
Hein? Moi, pas moi.
Mais non, moi je ne suis pas comme ça. Moi je n'aurais. Mais, et les femmes ont cette réaction beaucoup plus vite que les hommes. Donc, vous voyez, c'est un moyen de faire réagir le lecteur, de donner une activité au lecteur.
Michel Butor, vous avez écrit, alors je ne sais pas si c'est vrai, j'ai lu 1400 titres de livres, de textes, de recueils de poésie, de livres d'artistes.
Oh oui, même plus maintenant. Seulement, il y en a beaucoup qui sont des livres à très peu d'exemplaires, vous voyez, des livres faits avec des amis peintres, qui sont manuscrits, etc. Donc, qui sont faits à une dizaine d'exemplaires.
Et donc, puis, ça doit vous agacer qu'on vous renvoie toujours à ce livre, La Modification de 57, non ?
Ah oui, mais ça c'était autrefois qu'on me ramenait toujours à ce livre. Et bon, je suis d'ailleurs très fier qu'au bout de 50 ans, il reste actif. Mais maintenant, on parle de beaucoup d'autres livres. J'ai fait beaucoup de livres d'artistes, mais j'ai fait aussi un certain nombre de livres publié chez des éditeurs normaux. Et maintenant, je suis en train de publier mes œuvres complètes grâce aux éditions de La Différence. Et pour moi, c'est une aventure extraordinaire. Je suis plongé là-dedans parce qu'il y a déjà 6 volumes qui sont parus. J'ai corrigé les épreuves du 7e volume. J'attends celle du 8e, et pour l'instant, je prépare le texte du 10e volume.
Vous dites tout ça avec une sorte d'appétit, de joie de vivre et de bonheur absolument incroyable.
Mais oui, d'abord, je suis très heureux que cette édition se fasse. Pour moi, c'est une sorte de miracle. Et pour moi, c'est passionnant d'être obligé de relire tout ça. Et il ne s'agit pas de réécrire tout ça, c'est impossible. Bon, il y en a beaucoup trop, puis ça n'aurait pas d'intérêt pour moi. Ce qui est intéressant, c'est de rassembler ce qui a été publié. Mais ça pose quand même des tas de problèmes.
Mais l'écriture, c'est du bonheur pour vous.
C'est à la fois un supplice et un bonheur. C'est un supplice parce que c'est très très difficile et ça vous apporte des ennuis hein, dans la vie courante. Bon, donc c'est très très difficile, mais pour moi, c'est ce que je fais le moins mal. Hein. C'est là que je pense que je suis utile à quelque chose. Voilà.
Et c'est important ça.
Très important, oui.
Ça serait le lien entre tout ce que vous avez écrit ?
De quoi ?
Être utile ?
Ah oui.
À
oui,
quelque
oui.
chose, quelle chose ?
Oui. Ah ben, disons... l'amélioration de notre condition, disons, à la diminution du malheur général. Voilà, c'est ça que je cherche. Vous voyez, il y a quelques années, j'ai fait une série de conférences à la ville La Gilet, à Lyon, et j'ai publié ces conférences sous le titre « L'utilité poétique ». Justement, c'est un peu provocateur, parce qu'il y a des tas de gens qui disent que la poésie, c'est inutile, et c'est à cause de ça que c'est bien, etc. Et c'est utile parce que c'est inutile, etc. etc. Bon, vous connaissez ce discours. Alors, j'ai essayé de dire non, c'est faut prendre les choses autrement, et il faut essayer de comprendre pourquoi les gens font de la poésie, pourquoi les gens lisent de la poésie, et pourquoi c'est de la poésie ou de la littérature en général, et pourquoi c'est si important, donc si utile.
Merci Michel Butor.
Je vous en prie.
Cette petite histoire de la littérature française, 6 CD, un DVD et un livre, est édité au Carnet Nord. Dans quelques secondes, le journal, et on se retrouve après. Culture Vive, à suivre.